RMC, 9h midi.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
1, 2, 3, 4.
J'étais parti pour dire un grand bonjour à tous, mais la discussion avait commencé. Il y a eu une petite vanne de Charles Consigny qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour maître.
Bonjour à tous.
Bonjour Olivier.
Salut Alain, bonjour les grandes gueules, bonjour à tous, tout le monde est de bonne humeur.
Bonjour Laura Barton-Martinez.
Hola todos.
Bonjour Joël Dagosséry, coach de vie. Alors, Joël, un petit pépin de santé. Qui risque de poser problème pendant les 3 heures et s'est foulé la cheville. Ça n'a aucun rapport avec les GG, mais.
Je suis tombée dans les escaliers.
On t'a pourtant dit qu'il ne fallait pas faire de sport pendant la canicule.
J'allais au sport, justement. J'étais en route pour le sport.
Comment tu as fait pour tomber dans les escaliers?
J'ai raté une marche.
C'est la vieillesse.
J'ai dévalé les escaliers. Les escaliers.
On n'est pas prêt pour le James
Bond. D'ailleurs, je suis venue, j'ai oublié de mettre mes boucles d'oreilles, ma montre, ma croix du Christ pour chasser les mauvais esprits du plateau. Rien ne va. Voilà, vous saurez tout.
De quoi va-t-on parler dans les GG, dans les grandes gueules? Allez, on vous envoie le programme du spectacle de Patrick Bruel perturbé par les féministes, de la canicule et de la réunion du gouvernement. Est-ce que ça sert à quelque chose? Justement, Maud Bréjon, la porte-parole du gouvernement, sera avec nous face aux GG tout à l'heure à 11h. Et nous reparlerons aussi, vous savez, de ce médecin militaire qui avait été tué de 40 coups de couteau. Son meurtrier pénalement irresponsable a été libéré 4 ans après. Et il a un suivi léger à faire. Enfin, c'est quand même encore une histoire qui nous interpelle et qui vous fera réagir au 32-16. On va commencer par la pièce de Patrick Bruel avec les féministes qui y étaient hier soir. Bruel violeur, ça s'est passé hier soir au théâtre lors de la représentation de la pièce deuxième partie. Elle avait commencé depuis une quinzaine de minutes lorsque Bruel arrive sur scène et là les militantes se sont levées et ont perturbé la pièce.
Ouais, elles étaient trois, elles avaient donc infiltré le public, donc elles ont crié ce qu'on vient d'entendre, Bruel violeur. Ça n'a pas duré très longtemps, tout de suite le rideau est tombé, les acteurs se sont retournés dans les coulisses et puis 10 minutes après la pièce a repris, la représentation s'est terminée sans problème. Le théâtre c'est pas terminé pour Bruel puisqu'il a encore quelques jours de représentation, puis surtout il démarre une énorme tournée à partir du 16 juin avec une première date au Cirque d'Hiver à Paris, donc on imagine que ces militantes féministes seront devant le Cirque d'Hiver, et puis ensuite ça va passer par de nombreuses villes françaises, en Suisse, en Belgique. On a entendu deux maires, ceux de Paris et de Marseille, lui demander de renoncer à se produire dans leur ville. Il y a déjà 3 concerts de l'artiste qui étaient prévus en décembre au Québec qui ont été annulés. Est-ce que vous pensez que ces militantes féministes ont raison?
Joël, elles ont bien fait. 32-16 pour
dire. Elles ont raison, mais elles en ont le droit. Enfin, je veux dire, si elles ont envie de perturber le spectacle de Bruel, bon, elles en ont tout à fait le droit. Moi, à titre personnel, j'ai déjà dit ici, j'aime pas qu'on empêche les gens de travailler tant qu'ils sont pas condamnés. Le problème, c'est la justice et la lenteur de la justice. Et donc, du coup, ça va faire que Bruel va pouvoir rester, je ne sais pas combien de temps, le temps que la justice examine chaque petit cas, pendant des années, à se produire. Voilà.
Je crois que ces militantes se soucient de la justice.
Non, je crois qu'elle se soucie pas de la justice.
Je crois que même si la justice rendait un non-lieu, elles estiment qu'il est violeur. Elles disent Bruel violeur, donc elles l'ont déjà condamné.
Mais bien sûr, mais je veux dire, Patrick Bruel, il est au courant de ce qui se passe autour de son cas. Il choisit de maintenir ses spectacles. Il en a tout à fait le droit, d'ailleurs.
Il est pas tout seul, d'ailleurs, sur
scène. Oui, bien sûr. Donc, il sait très bien, je pense, à quoi il s'expose et il connaît le climat social autour de ces questions-là. Et il sait ce qui allait arriver. Donc, moi, je veux dire, là, c'est la pièce de théâtre, entre guillemets, à laquelle j'assiste là. C'est-à-dire des féministes qui viennent et qui perturbent un spectacle. Bruel qui continue ses petits shows comme si de rien n'était. Bah, en fait, je veux dire, rien de plus classique en France. Moi, j'attends juste qu'enfin, on appuie sur le champignon pour que la justice ait les moyens de traiter ces affaires rapidement.
Ce que je veux te dire, Joël, c'est que même si la justice allait très vite et rendait un non-lieu, ces militants finissent continueraient à perturber les spectacles de Patrick Bruel.
Je le sais très bien, mais parce que peut-être que s'il était condamné, il se sentirait pas aussi libre de continuer à faire ses spectacles. Voilà.
Laura.
Moi, j'aime pas du tout ce genre de. D'acte d'action parce que parce qu'il est pas seul sur scène et en faisant ça il condamne aussi tout un tas d'acteurs qui ont peut-être rien demandé. Il y a les gens, les intermittents du spectacle qui sont aussi derrière, qui travaillent, donc
il y a toute une
toile. Voilà, moi j'estime, si je préfère que tu viennes faire une manifestation devant chez lui, enfin, mais pas toucher les autres. Maintenant, ce que je voudrais rebondir sur ce que j'ai dit aussi la semaine dernière. On parlait du fait qu'à un moment donné, il faut faire du bruit médiatiquement parce qu'on nous entend pas. La première plainte contre Patrick Bruel, elle date de 2020. Pour les cas dans ce moment. Moi, la question que je me pose, c'est pour éviter tout ce ramdam, pourquoi il n'est-il pas en détention provisoire, tout simplement? Je veux dire, une détention provisoire, c'est pour soit éviter la fuite, soit éviter la récidivise, la récidive.
Ou les troubles à l'ordre public.
Ou les troubles à l'ordre public. Pourquoi il n'est pas derrière les barreaux en attendant?
Pour toi, il est violeur, de toute façon.
Ben, écoute.
Il n'est même pas mis en examen, je rappelle quand même. Donc, toi, tu veux mettre quelqu'un en détention provisoire qui n'a même pas été mis en examen?
Pourquoi pas?
Ah bon, d'accord. Bon, écoute.
Ben, tu me demandes mon avis, je te réponds oui.
Non, mais il va falloir qu'on change le code pénal, mais alors pour tout le monde, pas seulement pour ceux qui sont victimes d'agressions sexuelles.
Non, pour les gens qui peuvent avoir des dangers sur autrui. Oui. Complètement.
D'accord. Donc, un cambrioleur qui n'a pas encore été mis en examen, il y a une enquête, on le met en détention provisoire.
Il a tué personne, il a violé personne,
il met les gens en danger, un cambrioleur. T'as plein de
personnes qui sont en attente et qui sont des gens en détention provisoire. Je vois pas pourquoi ce serait pas pareil pour
sans
les violeurs.
Sans mise en examen.
Charles. Et juste, pardon. Tu me demandais, pour moi, il est déjà violeur. Si je suis purement et simplement factuel, les fausses accusations de viol, ça représente 2%. Ce sont des chiffres, c'est factuel. Donc, de toute façon, il a violé. Je suis désolée. Si tu reprends sur des bases statistiques, il a violé. Sur toutes les femmes qui ont parlé, parce qu'il y en a combien, là, toutes les langues se délient.
Une trentaine de témoignages au total.
Là, tu as toutes les langues qui se délient, donc tu en as forcément certaines qui n'en ont pas parlé et qui n'en ont pas
du tout. Donc tu dis sur les 30 au total, il n'y en aurait que 2% qui seraient fausses.
C'est la moyenne statistique, ça représente 2%.
Mais le débat, nous, on n'est pas juriste et on ne sait pas cette affaire, donc on n'est pas là pour dire si oui ou non il a violé.
Non, mais quand
la question est de savoir, est-ce que ces militantes ont raison d'agir ainsi? C'est pas tout à fait la même chose.
Alors, non, c'est la réponse que je t'ai dit. Pour moi, tu dois pas agir comme ça, mais quand tu as une plainte qui... Quand tu as une plainte qui est depuis 2020 en stand-by, que personne ne réagit, qu'il ne se passe strictement rien et que les viols continuent.
Là, ils ne continuent pas.
T'en sais rien.
Alors, moi d'abord, je ne crois pas trop à cette histoire des 2%. Je vois pas, on entend ça effectivement souvent. Je ne sais pas par quel miracle on peut dire que seuls 2% des plaintes pour viol ou agression sexuelle sont mensongères. Je ne vois pas quel chiffre permettre de dire.
Officiel, en fait.
Soit ça veut dire qu'il y a 98% de condamnations, et je crois que les mêmes qui disent qu'il y a 2% seulement des plaintes qui sont fausses se plaignent aussi qu'il n'y ait pas assez de condamnations, donc ça m'étonnerait qu'il y ait 98% de condamnations.
Non, mais par rapport aux acquittements.
Soit...
Un non-lieu n'est pas un acquittement.
Non mais d'accord, mais tu dis il y a que 2% des plaintes qui sont fausses.
Bah, où on prouve qu'elles sont fausses, oui.
Donc ça veut dire que les 98 autres, on les prouve.
Alors quoi, il y aurait que 2% quoi.
Et donc ensuite, t'as des non-lieux parce qu'on part du principe que la parole d'une femme n'est pas
une condamnation.
C'est ce que je dis.
Ces chiffres, moi, honnêtement, je pense qu'ils ne veulent rien dire. Je sais pas d'où ils sortent. Pourquoi il est pas en taule? C'est des faits anciens. En l'occurrence, s'agissant de Patrick Bruel. C'est tellement ancien que la plupart sont probablement prescrits. Alors, la Cour de cassation a innové en inventant un concept de prescription glissante. Qu'est-ce qu'une prescription glissante? C'est quand on considère que certains faits participent d'une même série. Imaginons un tueur en série qui tuerait 25 victimes, toujours avec le même mode opératoire sur une longue période. Eh bien, la jurisprudence désormais considère que si vous avez ne serait-ce qu'un de ces crimes qui n'est pas encore prescrit, on considère que c'est une seule et même série de crimes, ça rouvre les autres. Moi, je considère d'ailleurs que cette théorie, elle est totalement infondée, c'est une pure construction intellectuelle, et elle avait été élaborée par la Cour de cassation pour éviter que des meurtres sur enfants soient prescrits pour je ne sais plus quel criminel. Je me demande si c'était pas une femme qui a tué ses enfants, etc. Bref. C'est pour ça qu'on a inventé cette théorie, pour essayer de quand même condamner cette femme. Résultat, maintenant, ça s'applique au tout venant. Donc, c'est des faits anciens. On ne met pas quelqu'un en détention provisoire sur la base de faits aussi ancien s'il n'y a pas eu depuis, en tout cas en matière de viol ou d'agression sexuelle, s'il n'y a pas eu depuis des faits qui permettent de penser que la personne est dangereuse. Si Bruel n'est pas en détention, c'est effectivement d'une part que il n'a même pas été mis en examen pour ces faits. Alors, il y a des cas de détention sans mise en examen dans des affaires mineures qui ne passent pas par un juge d'instruction. Vous pouvez vous retrouver en détention entre deux séquences de votre affaire. Mais là, en l'occurrence, s'agissant de faits criminels, il devra être mis en examen s'il doit être jugé pour ces faits. Il ne pourra pas être jugé sans mise en examen puisque ce sont des faits criminels. Le viol est un crime. Il ne l'est pas encore. Donc, il ne peut pas être en détention provisoire. Et moi, je comprends très bien qu'il ne le soit pas puisque c'est quand même des faits vieux et contestés.
Ah, donc, quand tu violes il y a longtemps, donc, c'est moins grave que si tu avais violé aujourd'hui.
C'est qu'on non, c'est d'abord, c'est pas quand tu violes, puisque on ne sait pas encore.
Pour l'instant, il s'est pas avéré.
Je reviens à tes chiffres, mais pour l'instant, d'accord, ça n'est pas avéré.
Il y a des accusations
du point de vue judiciaire.
Mais
c'est des accusations.
Le juge en tiendra compte s'il doit être mis en examen. Le juge en tiendra compte que du fait qu'il y a 30 plaintes, évidemment que 30 plaintes, c'est pas comme une plainte.
En plus, c'est 8 plaintes.
Déjà 8 plaintes, c'est plus qu'une
soyons factuels.
Déjà 8 plaintes, c'est plus.
Et d'ailleurs, les plaintes sont pas pour viol. Il y a des plaintes pour agression sexuelle, pour viol. Il y a différents degrés.
Donc, en tout cas, donc pour venir au sujet, pourquoi je dis tout ça, c'est que bon, quand même, c'est des faits contestés, judiciarisés. Il n'y a pas encore de vraies procédures. Que fait la justice? Je n'en sais rien. Moi, je suis pas forcément client de ces opérations coup de poing de militants.
Plusieurs plaintes d'ailleurs avaient été déjà instruites, avaient été classées, et ce sont des personnes qui ont reporté plainte.
Ou alors la justice les rouvre à la lumière d'autres plaintes qui constituent des faits nouveaux justifiant qu'on réexamine le cas. Ça existe aussi.
Moi, la question que je me pose, c'est y a-t-il un risque que Patrick Bruel viole encore quelqu'un? Oui.
Mais tu n'en sais rien. Qu'est-ce que t'en sais?
J'espère pas. Enfin, je veux dire,
qu'est-ce que j'en sais? Quelqu'un qui met des droites à sa femme à longueur de temps, il remettra des droites à la suivante.
Lui, il nie qu'il l'a pas fait.
Mais la prescription.
Laura, s'il est coupable de ce qu'on l'accuse, qu'il soit condamné et qu'il aille en taule, on est d'accord. Mais aujourd'hui, Laura, cette justice des plateaux télé, et des militants féministes...
Ça dure depuis 2020.
Pas plus de 2020, puisque Flavie Flamand parle des faits qui remontent aux années 90, donc ça va au-delà de 2020.
Mais il y a une plainte qui date de 2020.
Je termine.
Aberrant.
Cette justice qui se fait sur les plateaux télé...
Mais parce qu'elle ne se fait pas dans les tribunaux, c'est bien là le problème.
Des gens qui ne connaissent pas le dossier, tu ne connais pas le dossier, tu ne sais pas précisément, tu n'es pas capable de donner le nombre de plaintes, donc tu ne connais pas vraiment le dossier. De ces militantes qui condamnent de toute manière parce que il suffit qu'il y ait une accusation pour que l'homme soit jugé violeur ou la femme si c'était une femme. Moi, je trouve ça très déplaisant et je trouve qu'en plus laissons les choses se faire normalement.
Oui, mais non, mais
et la justice, je suis d'accord, devrait aller plus rapide.
D'accord, moi je suis d'accord.
Mais la justice,
quand tu dis la justice qui fait la justice qui met 20 ans à traiter un truc quoi. Alors que tu regardes
20 ans ou est-ce que tu dis 20 ans?
Tu regardes la rapidité avec certaines affaires qui sont beaucoup plus médiatiques.
Mais oui, mais c'est très long.
Regarde la vitesse à laquelle elles sont traitées.
Mais c'est pas parce que c'est très long qu'il faut dire qu'il est forcément coupable et qu'il faut aller en taule, parce que je comprends pas ce raisonnement.
Je dis que
tu nous dis qu'il doit être en détention provisoire, c'est bien ce que tu as dit.
Parce que j'estime qu'il représente un risque pour les femmes de ce pays, oui.
Bah donc, et apparemment, tu l'as déjà condamné.
Même apparemment, outre-Atlantique.
Les procureurs des plateaux télé, excuse-moi, c'est pas ma conception des choses.
Ah, vous me demandez.
Oui, alors les soutiens. Le non, mais attends, moi je veux bien ce que tu dis, Olivier, mais les soutiens aussi des plateaux télé, parce que Monsieur Bruel, je veux dire, il a évolué dans un certain monde médiatico, divertissement, etc. pendant des années. Et si effectivement c'est un violeur, ça veut aussi dire qu'il y a un système en place dans lequel, il se sent impuni. C'est-à-dire qu'il pense qu'il peut agir tel qu'il le peut.
Quand
on raconte par exemple que l'éloge des artistes sont quasiment cloisonné et que c'est interdit d'aller dans la loge de l'artiste et qu'il peut s'enfermer avec une masseuse ou une maquilleuse, etc. Et que surtout pas, oulala, faut surtout pas le déranger, etc. Bah, excuse-moi, il y a un problème dans le système. Donc moi, je veux bien qu'on fasse pas la justice sur les plateaux télé, mais à ce moment-là, il aurait fallu que le monde dans lequel il évolue puisse le réguler et c'est pas ce qui s'est passé malheureusement.
Oui, puis moi, je connais...
Il y a un festival qui a négocié, enfin une plaignante lors d'un festival qui a négocié avec Patrick Bruel. Ils avaient négocié un arrangement financier pour pas effectivement qu'il y ait plainte. On a Stéphanie qui est avec nous dans les Alpes-Maritimes du côté de Cannes. Bonjour Stéphanie. Bonjour, bienvenue Stéphanie. Allô, est-ce que Stéphanie est avec nous? Oui, vous êtes avec nous Stéphanie,
oui,
m'entendez bien?
Oui, je vous écoute.
Alors Stéphanie, qu'est-ce que vous en dites? Est-ce que ces femmes ont eu raison de perturber le spectacle de Patrick Bruel?
Pas du tout. C'est les militantes et tout ça, ça commence à me fatiguer.
Pourquoi?
Attendez.
Ah bah on a un problème avec la ligne avec Stéphanie.
Bon, la ligne est fatiguée aussi.
On va continuer la discussion dans un instant. Moi, est-ce qu'elles ont bien fait de perturber le spectacle de Patrick Bruel? Ça s'est produit une fois.
Il continue, pour dire que non.
Surtout qu'il continue d'être sur scène là. Qu'est-ce que ça va impliquer?
Il y a encore quelques jours. Ouais, c'est jusqu'à la semaine prochaine. Après il y a la série de concerts.
Vous êtes là, Stéphanie? Alors oui,
je suis là, mais ça passe pas.
Ah bon, là on vous entend, là vous
alors
êtes
allez-y.
Direct, il y a des millions de gens qui vous écoutent.
Vous êtes sur Bruel FM.
Allez-y.
10 millions.
Bon bah écoutez, voilà, on va reprendre dans un instant. 32-16 pour continuer d'en discuter avec les GG, avec les grandes gueules, parce que ce qui s'est produit hier soir peut se reproduire encore pour les jours prochains. Bruel n'est pas seul sur scène, il y a d'autres comédiens.
On est tous d'accord pour dire
qui sont avec lui.
Non mais surtout au Cirque d'hiver le 16 juin à Paris. Moi je
c'est sa tournée qui commence.
Souvenez-vous de Pardieu, il y avait eu des manifs. Il faisait son spectacle sur Barbara, il y avait des manifs devant chaque salle de spectacle. Harry Habitant a été perturbé. Il y avait même Brigitte Macron qui était dans les coulisses et qui avait traité de conne. Les militantes, ça avait créé d'ailleurs la polémique, souvenez-vous.
Allez, à tout de suite longtemps. Avec les GG au 32-16.
RMC. Alain Marchal, Olivier Truchot. Les grandes gueules. 1, 2, 3, 4.
Les GG, les grandes gueules, en direct sur RMC, RMC Story, avec aujourd'hui Charles Consigny, Joël Dagosséry. Nous sommes avec Laura Varton-Martinez. On va reprendre notre discussion à propos de Patrick Bruel Ducat. Patrick Bruel, en fait, ce qui se passe là aujourd'hui, c'est que, et elles l'avaient annoncé, les militantes féministes, hein, elles avaient dit, on fera entendre notre voix directement dans les salles de Patrick Bruel. Et là, c'est ce qui s'est passé hier au théâtre, où il est en cours de représentation de sa pièce deuxième partie. Trois militantes se sont levées en scandant « Bruel violeur » avant d'être évacuées. Nous sommes dans l'Hérault, du côté de Montpellier, avec Julien. Bonjour Julien.
Bonjour à tous.
Qu'est-ce que vous en dites, Julien? Elles ont eu raison ou pas?
Oui, bon après c'est pas bien méchant, elles sont que trois. Bon. Mais après, moi je sais pas, oui, il y a présomption d'innocence, certainement. Mais quand il y a autant de plaignantes, et pas qu'en France, je me dis qu'il y a peut-être quelque chose.
Oui, non, bien sûr. Oui.
Pardon?
Il n'y a pas de fumée sans feu, c'est ce que vous voulez dire.
Il y a autant de plaignantes, il y en aurait une ou deux. Bon, on pourrait se dire, bon, attendons. Mais là, il y a autant. Je ne pense pas que des femmes prennent plaisir à déposer des plaintes.
Oui, mais je suis d'accord avec vous. Mais en quoi l'empêcher de jouer au théâtre fait avancer...
Ah non, mais moi, je ne veux pas l'empêcher de jouer au théâtre.
Mais tout le monde est d'accord avec
parce qu'encore, la question est de savoir, est-ce qu'il faut l'empêcher de faire son métier? Je suis d'accord avec vous. Bien sûr que c'est troublant. Bien sûr qu'on entend ces femmes. Bien sûr que la parole est importante. Bien sûr, il faut que la justice aille plus vite. Mais je ne vois pas en quoi empêcher Patrick Bruel de chanter ou de jouer fait avancer déjà l'instruction plus rapidement.
Après,
la justice que chacun rend, moi, ça me fait peur, moi.
Ben, moi, je vais juste faire un parallèle. Je suis infirmier, je travaille grosso modo avec 70-80% de femmes. Si j'avais des comportements aussi déviants, je peux vous assurer que j'aurais été mis à pied et viré.
Donc là,
même
en fait.
Si j'ai des soupçons, hein.
Ouais. Mais en fait, la technique ou la stratégie, Julien, elle consiste en quoi? Perturber le spectacle de Patrick Bruel, c'est dissuader, un, les spectateurs d'y aller, deux, c'est de lui dire, de le pousser à se mettre en retrait, pousser lui-même à annuler sa tournée, de lui mettre la pression pour dire on ne te lâchera pas. D'ailleurs, ce qu'on a entendu, c'est les sales connes ne te lâcheront pas, allusion à ce qu'avait dit Brigitte Macron, vous vous souvenez.
Ouais, mais ça serait pour lui un aveu de culpabilité.
Mais attendez, moi la seule personne
c'est le pousser à prendre sa responsabilité de ne plus chanter.
La seule personne publique dont j'ai le souvenir qui est restée à l'antenne ou qui a continué de faire son métier purement et simplement correctement, alors qu'il y avait des faits comme ça et qui est resté jusqu'au jugement, c'était Morandini. Il me semble que toutes les autres chaînes de télé, que les gros médias, etc., à chaque fois qu'il y avait un soupçon qui grossissait, la première chose que les chaînes ont fait, c'était d'écarter cette personnalité. Parce que justement...
Pas la chaîne qui l'employait.
Hein?
Pas la chaîne qui l'employait.
Oui, sauf la chaîne qui l'employait.
Non, ce que dit Laura, c'est que le CAN, il y a que Morandini qui a été maintenu à l'antenne malgré des accusations.
Alors toutes les autres chaînes ont pris la
peine.
Non, mais je prends un autre exemple. Harry Habitant, ses spectacles se sont arrêtés. Finalement, la justice a rendu un non-lieu et aujourd'hui on peut pas dire que la carrière d'Harry Habitant se porte très bien.
Mais voilà,
il a essayé de remonter sur scène et il y a eu encore des spectacles perturbé, notamment le jour où Brigitte Macron y était, alors qu'il a, il a obtenu d'être blanchi par, par la justice, et on peut pas dire que sa carrière cinématographique est reprise. Donc, sincèrement, en fait, on veut la mort sociale de celui qui est accusé. Ben, qui décide de ça?
Oui, mais à un moment
qui
donné,
décide de ça?
Ce sont 3 millions de personnes. Ce sera un personnage politique qui aurait eu un non-lieu. Je prends Marine Le Pen. On sait pas ce que c'est l'exemple qui va arriver. Marine Le Pen, là, imaginons, dans les affaires des, de l'argent européen, elle a un non-lieu. Tout le monde va être devant debout si elle se présente quand même aux élections présidentielles.
Non,
ne faites pas les hypocrites. Bien sûr que si, tout le monde lui dira, Madame Le Pen, un non-lieu n'est pas un acquittement. Et ils auront raison.
Personne va dire ça. Je prends un autre exemple. Emmanuel Macron.
C'est une hypocrisie.
Emmanuel Macron, à mon avis, a eu raison en disant que quand on est mis en examen, eh bien, ce n'est pas une condamnation, et donc mes ministres mis en examen ne doivent pas démissionner, parce qu'on peut pas à la fois défendre la présomption d'innocence et faire démissionner un ministre. Et je prendrai un exemple.
Oui, mais tu prends les choses. Mais personne en examen, parce qu'il y a un soupçon.
Éric Dumont, je donne des exemples concrets. Éric Dupond-Moretti, donc resté garde des sceaux, et d'ailleurs il a bien fait, puisque au final il n'a pas été condamné. S'il avait, alors donc il aurait dû quitter sa carrière ministérielle, il serait plus jamais redevenu ministre, parce que.
Non, mais on ne demande pas.
Les accusations, elles pleuvent de tous les côtés. Il a été au courant de tout. Il a été au courant de
Laura,
tout.
C'est tout, Laura.
Pardon, Laura, mais t'es aux fraises. Honnêtement, là, mais oui, excuse-moi, tu raisonnes. La justice, c'est pas un apéro. Tu vois, on peut pas être juste là autour des merguez en train de griller.
Vous ne vous rendez pas compte, c'est quand même dingue.
En disant à un tel, il est accusé, donc c'est bien qu'il est coupable. Non, en l'occurrence, justement.
C'est pas ce que je te dis, hein.
En l'occurrence, Bayrou, il a été jugé qu'il n'était pas coupable des faits reprochés à qui lui étaient reprochés à lui
et à son parti. Non, moi je te parle de Betaram.
Oui, mais
il n'a même pas été poursuivi sur Betaram.
Et ça pose problème à personne. Mais c'est génial. On peut quand même se dire que quand il s'agit des femmes ou des enfants, tout le monde s'en fout dans ce pays.
Moi je veux bien, mais
c'est vrai.
Les enfants, oui, les femmes, c'est pas vrai.
Je te souhaite pas, Laura. Honnêtement, je te souhaite pas d'être un jour mise en cause par la justice, parce que tu seras contente si tu es mise en cause, que le juge ne soit pas juste derrière son pupitre à hurler que tu es coupable avant tout procès. Tu vois, Bayrou, en l'occurrence, a dû démissionner de ses fonctions à l'époque de garde des Sceaux, ministre de la Justice.
Premier gouvernement
Macron.
Quand
il a été mis en cause, c'était le premier ministre de la Justice de Macron, tout le monde l'a oublié. Et résultat, après, il a eu une espèce de traversée du désert politique.
Oui, mais
j'aimerais attendre l'issue.
Vous vous rendez
Je peux finir ou pas?
Il faut qu'on puisse terminer.
Mais non, mais si vous nous coupez toutes les deux phrases, honnêtement, on ne peut pas faire l'émission. Donc, il a.
C'est normalité pareille.
Bon, j'arrête de parler. Non, mais fais un effort.
Non, mais Laura, il faut que tu écoutes les autres.
Fais un effort. Mais...
On peut ne pas être d'accord avec toi.
Il a dû démissionner. Résultat des courses, ça a flingué sa carrière. On aime ou pas Bayrou. Moi, je ne suis pas fan de Bayrou. Je constate que ça a flingué sa carrière et qu'il a été relaxé à la fin pour ça. Mm-hmm. Et s'agissant de Betaram, il n'a pas été mis en cause pour l'instant.
Non.
Parce que, pareil, c'est des très vieux faits. En l'occurrence, il n'était pas directeur de Betaram.
Non.
Et en l'occurrence, ça lui a coûté, pour le coup, sa place à Matignon et la suite de sa carrière. Donc, je suis désolé, Bayrou, c'est vraiment le mauvais exemple en la matière.
Je comprends qu'on analyse les choses aussi très froidement avec.
Factuellement, surtout.
Avec un truc du style, la justice n'est pas passée, donc tout peut se faire en amont de la justice. On rappelle quand même que, je l'ai dit au début, la justice c'est très long, d'accord?
Oui, et toi, tu as dit que
Laura, elle serait bien contente de pas avoir un juge qui gueule derrière son micro, mais aussi tu serais bien contente de pas être violée et t'aurais été content si t'avais été violée d'avoir des personnes qui se lèvent pour toi. Donc ça, il faut aussi le comprendre. Moi, autant je dis que ces féministes ou ces militantes entre guillemets n'avaient pas fait ça, mais j'ai pas envie tout d'un coup de faire leur procès. J'ai pas le luxe, je peux pas me permettre ce luxe-là en tant que femme. J'ai une fille de 16 ans. Ce monsieur Bruel, il nous a raconté quand même que c'était super, c'était consentant avec une nana qui avait 16 ans alors qu'il en avait 32. Moi, j'ai pas le luxe en tant que femme dans ce pays de pouvoir mettre au pilori, clouer au pilori des militantes qui viennent perturber monsieur
Bruel. Mais est-ce qu'elle rend vraiment service à la cause? Je suis pas sûr.
Non mais attends, bien sûr, parce que tu crois que la justice qui prend des plombes elle rend service à ma cause? Non, pas du tout.
Mais pareil.
D'accord. Donc
pareil.
Si on en parle, la preuve,
autant,
ça fait du bruit.
Voilà, moi je pense qu'il faut se calmer, il faut dire les choses comme elles sont. Moi, je dis, elles avaient le droit de le faire. Monsieur Bruel sait très bien à quoi il s'expose. Si, il sait à quoi il s'expose en continuant de jouer. Mais moi, j'ai pas le luxe dans ce pays, en tant que femme qui a subi des agressions sexuelles, en tant qu'enfant qui a subi des agressions sexuelles, de venir dire à des militantes, donc, ouais, vous n'avez pas à faire ça, ouais, vous êtes condamnable, etc. Non, je suis désolée, je vais pas inverser l'accusation à ce point-là. Donc voilà, chacun.
Anne-Marie qui veut intervenir. Elle est du Tarn-et-Garonne. Bonjour Anne-Marie.
Oui, bonjour.
Bienvenue. Qu'est-ce que vous en dites, Anne-Marie, alors?
Alors, déjà, je voulais apporter tout mon soutien à Laura, à Joël, qui sont très courageuses, là, lors de ce débat. Moi, je pense qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Ah. Elles ont raison, la justice française, c'est très long, c'est trop long. Je pense que là, aujourd'hui, maintenant, ça change. J'ai 34 ans, j'ai des enfants. Et je suis contente de voir que les langues, que tout ça sort. Monsieur Patrick Bruel, vous inquiétez pas pour lui, il a de l'argent, il peut se permettre, je pense, de suspendre un peu ses spectacles, ses concerts. C'est une personnalité publique. Est-ce que on est fiers en France qu'il chante encore et qu'il joue la comédie avec toutes ces jeunes filles, ces jeunes femmes qu'il a fait souffrir? Je souhaite vraiment aux hommes, est-ce que un viol vous accepteriez? Est-ce que vous seriez bien après?
Non, mais Anne-Marie, pardon, ça c'est, excusez-moi, mais c'est du chantage. Bien sûr que, encore une fois, si il a commis les faits qui lui sont reprochés, qu'il soit condamné le plus durement possible et que la justice soit ferme, elle ne l'est pas souvent sur, d'ailleurs, pas seulement ce sujet. Mais là, on n'en est pas là. C'est-à-dire, moi, la condamnation des plateaux télé ou de l'émotion, comme parce que Joël qui dit, ah, mais vous comprenez, c'est l'émotion, etc. Moi, non, ça me fait très peur. Et le fume, et pas de fumée sans feu, au nom de ça, on a souvent mis en prison des innocents. Ah, il n'y a pas de fumée sans feu. Je me méfie toujours de ce genre de formule.
Malheureusement, ce qui va se passer.
Allez-y.
S'il vous plaît, il y a trop de témoignages de jeunes femmes et de femmes. Toutes les hôtesses qui avaient des consignes ne restent pas enfermées, ça l'avait Bruel. Toutes les masses,
d'accord, mais une fois que vous avez dit ça, est-ce qu'il faut aller perturber ces spectacles? Et en quoi le fait de perturber ces spectacles, ça fait avancer les choses?
On en parle.
Là, il faut.
On en parlait même avant.
On était pas au courant de la plainte de 2020.
Pour moi, maintenant, il faut qu'on se responsabilise. Ça change, ça évolue, j'y crois. Quand on est accusé comme ça, stop, tu n'as pas le droit. Quand c'est un métier,
Anne-Marie, ce qu'il faut, c'est qu'en perturbant ces spectacles, il faut que ça le pousse à se mettre en retrait, qu'il ne monte plus sur scène. Voilà, c'est ça.
On aurait aimé.
C'est ça.
Et en quoi ça changerait?
Bah, les victimes se sentiraient peut-être respectées.
Mais non.
Ah bah oui, si, je te dis.
Non, les victimes, c'est pas... Les victimes, pardon, j'ai pas entendu Flavie Flamand dire il faut qu'il arrête de chanter. J'ai entendu Flavie Flamand dire il faut que la justice m'écoute.
Oui, mais la justice ne fait pas son travail.
Ces militantes parlent au nom de victimes, mais elles n'ont aucun mandat pour
mais
ça.
Mais je t'ai dit que j'ai condamné les actes de ces militantes.
Non, mais Joël disait que c'était formidable.
Non, elle a pas dit ça. Elle a dit elles ont
fait. Allez-y, Anne-Marie. Allez-y, Anne-Marie.
Je respecte les hommes et les femmes, il n'y a pas de souci. Dans votre débat, je me dis, c'est dommage quoi, qu'on en soit encore là. Les personnalités publiques, politiques, acteurs, ce que vous voulez, quand ils sont accusés comme ça, il faudrait mettre un stand-by. Je veux dire, vous savez que la justice est trop longue. Mais on alimente tout ça aussi.
Oui, mais est-ce qu'il n'y aurait pas confusion, Anne-Marie? C'est-à-dire, Anne-Marie, même s'il se met en stand-by, alors, effectivement, il n'apparaîtra plus sur scène, il ne sera plus applaudi par son public, mais en même temps, ça ne fera pas avancer plus vite le dossier judiciaire, voyez.
Ben non.
Or, l'intérêt, c'est plutôt que le dossier judiciaire avance le plus vite possible, c'est ça, Anne-Marie.
Il va dire que oui, il y a eu des relations sexuelles avec toutes ces femmes, sauf que c'était consentant, et du coup, on va avoir un joli non-lieu.
Pas avancé. Il y a la justice, et ce que
vivent les victimes. Et c'est
effectivement,
okay.
Ça fait pas avancer plus vite le dossier de la justice. Par contre, pour une victime, quand t'as été agressée, violée, etc., de voir ton violeur continuer sa life comme si de rien n'était. En plus, c'est un personnage public, donc tu peux le voir à la télé, tu peux le voir en affiche, sur les bus, on ne sait rien, à l'abri bus,
dans
le métro.
Dans un théâtre parisien, c'est pas tout à fait comme si de rien n'était.
Bah non. Oui, d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est ce qu'il faut comprendre quand je pense. J'ai oublié le prénom de Anne-Marie. Voilà, quand elle dit que il pourrait se mettre en stand-by. Moi, personnellement, je suis pas pour ça. Je voterai jamais pour un truc de t'as pas été jugé, tu dois t'arrêter. Honnêtement, mais il faut juste comprendre. Pourquoi il y a certaines personnes qui estiment que il devrait rester chez lui.
Ce ne sont pas les victimes de Patrick Bruel présumées. De quoi je me mêle?
Bah, donc, ah oui, non, coup, mais tu t'offusques pas si quelqu'un fait toi, un attentat, que si quelqu'un.
À la limite, je comprendrais que une de ces accusatrices, désespérée de le voir sur scène et de faire comme si de rien n'était,
tu sais manifeste devant.
Mais ces militantes
dans des causes pour lesquelles n'ont pas.
C'est toujours les mêmes qu'on retrouve. Et
dans tous les domaines d'ailleurs. T'as des gens qui s'engagent alors qu'ils n'ont pas subi.
Moi, je me méfie.
Alors, après, il y a autre chose. J'entendais une réflexion. C'est-à-dire que Patrick Bruel, maintenant, sur scène, quand il va chanter ses chansons d'amour devant des milliers de personnes, ça va résonner aussi de manière un peu différente. Ça va résonner de manière un peu différente. Parce que toi, tu faisais partie des fans de Patrick Bruel.
Moi, je suis allée plusieurs fois à ses concerts. Il y a encore un mois, mon pyjama, c'était un t-shirt de Patrick Bruel. Tous les trois jours, c'était mon pyjama. Moi, j'ai grandi avec Patrick Bruel. Dans mon restaurant, c'était Bruel à fond. Dans mon magasin aussi, je chantais et j'adorais. Et franchement, ça
c'est fini.
Ça me fait chier réellement parce que
donc c'est fini.
Ah, c'est complètement terminé. Et j'en suis la première.
Tu l'as enlevé de ta playlist.
Ouais. Non, mais vraiment, parce que la dernière fois, je suis dans ma voiture et t'as qui a le droit. C'est pour ça que j'ai dit cette chanson-là. Qui a le droit de faire ça à un enfant. Je me dis, mais attends, mais comment le mec peut chanter un truc pareil en fait? Parce qu'on le veuille ou non, Flavie, que ce soit consenti ou pas, c'était une enfant.
On a Grégory qui veut terminer la discussion avec nous. Bonjour Grégory.
Oui, bonjour.
Bienvenue Grégory Dugers, technico-commercial. Vous avez entendu Anne-Marie notamment, vous avez entendu la colère rentrée aussi de Joël et de Laura. Qu'est-ce que vous en dites, vous, Grégory, alors ?
Moi, je dis que pour l'instant, il n'a pas été condamné. Donc, condamner quelqu'un avant qu'il soit jugé, c'est se faire juge. On n'est pas juge, on va laisser la justice faire. La justice, elle est là. Alors, c'est vrai qu'elle est lente, elle est très lente.
Est-ce qu'il doit se mettre en retrait du coup ou pas?
Ben, je pense pas qu'il doit se mettre en retrait. S'il est condamné, par contre, il faut qu'il soit condamné, que ce soit lourd, une très lourde condamnation et qu'elle soit effectuée. Maintenant, pour l'instant, il y a rien. Enfin, dernière nouvelle, moi j'ai regardé les infos, il avait même pas été mis en examen pour l'instant, il n'a pas été. On peut pas condamner quelqu'un avant qu'il soit jugé.
Je peux vous assurer que s'il avait détourné de l'argent et qu'il en avait placé au Panama, il serait déjà mis en examen.
Peut-être, oui.
Mais je vous le garantis.
Mais voilà.
Laissons faire.
Il y a deux poids, deux mesures au niveau de la justice. C'est pas le sujet, là.
Vous avez raison, la justice protège tellement bien ses femmes et ses enfants. Laissons-la faire.
Grégory, merci d'avoir été avec nous. C'est vous qui avez conclu. Laissons faire la justice, c'est ce que dit Grégory. Alors... le spectacle de Patrick Bruel, sa pièce de théâtre perturbée. Est-ce que les féministes ont bien fait? Est-ce que vous êtes d'accord avec la méthode? Vous dites non à 75%. Dans un instant, suite des GG, suite des grandes gueules, on va s'intéresser, on s'en fout. On s'en fout pas. Il est 10h-20, vous êtes sur RMC et RMC Story. RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
Il est 10h moins le quart. On aura un gagnant tout à l'heure à 11h20 dans les GG, dans les grandes gueules. Vous savez que la Coupe du Monde approche. Et si vous voulez gagner le chèque de 10 000 euros ou le pack Coupe du Monde, c'est en envoyant liste par SMS au 732-16. Vous avez 5 minutes devant vous. Liste par SMS au 732-16. Le pack Coupe du Monde, c'est le vidéoprojecteur, c'est le maillot des Bleus, le ballon officiel et la boîte Lego du trophée. Vous voulez ces cadeaux Coupe du Monde? Pas compliqué, donc liste par SMS au 732-16. Et il y a potentiellement le chèque de 10 000 euros. Faites-vous plaisir, 5 minutes pour jouer. Le gagnant tiré au sort tout à l'heure à 11h15, 11h20 dans les GG, dans les grandes gueules. Il est 10h moins le quart.
RMC, les grandes gueules.
On s'en fout. On s'en fout pas.
Bonjour Louis Gerbier.
Bonjour les GG, bonjour tout le monde. Des billets à partir de 9 euros pour prendre un train deux fois plus lent. On s'en fout pas. Charles.
On s'en fout pas.
Laura.
On s'en fout pas.
Et Joël.
On s'en fout pas.
Hier et aujourd'hui c'est le dernier jour, hein, 50 000 billets de Ouigo lents, comme on les appelle, ont été mis en vente pour le mois de juin à partir de 9 euros. En revanche, vous irez deux fois moins vite. On prend un exemple, Paris-Bordeaux. C'est 2 heures maintenant, je crois, environ, un peu plus. Il faut compter plus de 5 heures cette fois pour le faire. Laura, c'est une bonne alternative?
Bah oui, pourquoi pas, s'il y a des gens que ça dérange pas de mettre plus longtemps, mais qui peuvent partir en vacances à Frères et Luges. Enfin, je pense à une famille qui a beaucoup d'enfants. Tu prends plein de jeux de société, si ça te permet de partir en vacances à ce prix-là, quand tu vois le prix de l'essence, le prix des péages, etc. Bon, ouais, pourquoi pas?
L'éloge de la lenteur, Charles Consigny.
À la limite, non, je me dis, bon, pour les jeunes et tout ça, why not? En même temps, quand on voit le gouffre qu'est cette compagnie ferroviaire nationale, on aimerait bien qu'il n'y ait pas le train des pauvres et le train des riches, parce que c'est quand même ça qu'ils sont en train de faire.
Le Ouigo qui était déjà un TGV low cost, mais enfin qui était un TGV censé aller vite.
Le gauchisme se retourne. Ouais. Le gauchisme qui fait que cette boîte n'est pas tenue, qui fait qu'on part à la retraite à 45 ans, qu'on travaille 10 heures par semaine et qu'on est en sureffectif sur absolument tous les postes, parce que c'est quand même ça la SNCF. Je salue les agents SNCF qui nous écoutent, mais je dis les choses comme je les pense. Eh bien, il aboutit à faire le train des pauvres et le train des riches, ce qui déjà existe un peu avec le Ouigo. Est-ce que c'est vraiment l'objectif auquel voulait arriver Sudrail et autres syndicats de la SNCF? J'espère pas pour eux.
Joël, tu le prendrais, toi, ce train?
Oui, moi, je me suis déjà prononcée sur les trains de nuit que je prenais quand j'avais 20 ans pour aller en vacances dans le sud avec mes copines. Je trouvais ça très bien, c'était très long. Et je trouvais ça très bien. Toi, t'es étudiante, tu payes 9 euros avec les potes et tout, vous partez. Non, mais c'est génial.
Non, mais le problème, c'est aberrant.
C'est pas ça. Le problème, c'est que tu vas payer ensuite à côté 400 euros avec toi et tes enfants et avoir le même train de la lenteur entre Paris et Nice, parce qu'en fait, le train va prendre 8 heures pour faire un trajet qu'il devait faire en 4 heures, parce qu'ils vont te laisser en race campagne. Donc moi, j'ai pas de problème avec les 9 euros. Ce qui me pose un problème, c'est de payer 400 balles et d'avoir des TGV sans climatisation, sans bouteille d'eau, dans lesquelles tu peux pas ouvrir la porte parce que sinon, attention, c'est une amende. Ça, c'est un vrai problème.
Mais là, tu vas avoir plus la compagnie.
Personne ne mesure l'absurdité de faire rouler des trains à grande vitesse. Un Ouigo, c'est un train à grande vitesse.
Les TGV.
Non, mais les Ouigo, c'est les TGV.
Tu vas être en RER.
Il y a pas que. Il y a pas. Il y a aussi des
les Ouigo, c'est des TGV low cost. Au départ, c'était des TGV un peu moins confortables et on payait un peu moins cher.
Qui partaient de gare.
On a tous pris des Ouigo. Voilà. Là, donc, on prend des TGV.
Mais je pense que ce sera des TGV.
Et là, on les fait ralentir. Donc, on fait un Paris-Bordeaux en 6 heures ou de le faire en 2 heures. Et alors, vous faites payer quelques euros. Enfin, c'est ça le progrès. C'est,
mais non, pardon, mais là, ça va être
pas tout ça parce que dans ce pays, les gens sont pas assez bien payés et qu'on a un problème de pouvoir d'achat.
Ouais, c'est des trains corail.
Je suis désolé, c'est pas la SNCF qu'il faut engueuler.
Ils vont peindre des trains corail.
C'est ce pays qui en a à offrir qu'aux jeunes. Plutôt d'essayer de leur préparer un avenir meilleur, bah écoutez, ça tombe bien, on va faire ralentir les TGV, comme ça vous pouvez monter dedans.
Vous voulez faire quoi aux jeunes?
Qu'est-ce que vous racontez?
Ils sont étudiants, tu travailles chez McDo, je ne sais où, t'as 400 euros par mois, tu peux te payer un Ouigo, mais c'est la vie, c'est la jeunesse, putain,
vous vivez, vous êtes vieux,
vous voulez tout de suite, les jeunes vivent dans le luxe, faut qu'ils voyagent en TGV à 300 euros.
Non, j'aimerais bien que la société ait autre chose à offrir que des Ouigo en fait, trop lents.
C'est comme,
je préférerais que nos jeunes trouvent du boulot, soient bien formés et qu'on n'ait pas l'un des taux de chômage.
En fait, si tu raisonnes par l'absurde,
c'est comme si tu disais
voilà, vous payez moins cher l'avion de Ryanair, mais vous allez voler à 300 km/h.
Ouais. En fait, c'est ça.
Sauf que c'est absurde.
Pourquoi?
L'avion de Ryanair, tu payes moins cher, mais ton temps de trajet pour aller à la distance, il est exactement le même que si tu payais une première classe.
Les gens, ils sont pas pris à défaut. C'est comme mais le non, bus, mais là, a toujours aller à Bordeaux en bus, on dit
vous payez moins cher et vous mettez deux fois plus
revenez en arrière, replongez-vous quand vous aviez 17 ans, je sais que ça fait un siècle.
Il n'y avait pas de TGV.
Oui, d'accord, mais on vous propose une petite offre comme ça, petit prix.
Ce que je veux dire, c'est qu'il vaut mieux mettre des billets sur un temps de trajet, des billets à un prix intéressant, un tarif intéressant.
Mais de toute façon, là, ça va changer. T'es une compagnie.
Mais pas te dire que tu payes moins cher et que tu mets deux fois plus de temps.
Velvet.
On a fait voler les avions de Ryanair à 300 km/h au lieu de 800.
La SNCF va être obligée de ralentir la voilure. Déjà, comment ça se fait qu'SNCF a un budget pub aussi énorme alors qu'ils sont monopole?
Ça, c'est depuis que Bruno est à la com. Ça coûte une blinde. Allez, on enchaîne après les Ouigo. Parlons des Wegovy, deux médicaments contre l'obésité bientôt remboursés. On s'en fout pas, Laura.
On s'en fout pas. Allez,
Joël.
On s'en fout.
On s'en fout pas. Ces nouveaux traitements anti-obésité. Wegovy et Mounjaro sont devenus des phénomènes planétaires. Vous les avez sûrement vus sur les réseaux sociaux. eh ben ils vont bientôt être remboursés en France. Charles, pourquoi tu t'en fous pas?
Bah, sous certains critères, hein.
Ah oui, bah voilà, évidemment, faudra, ça va pas être du Doliprane non plus.
Des critères médicaux, enfin, en fonction de
voilà. La pathologie. Enfin, la ministre de la Santé a dit qu'il ciblait 1 million de personnes. Mais ça va coûter, Madame Rist dit, ça va coûter donc aux finances publiques une centaine de millions d'euros. Formidable.
Mais après, qu'est-ce que ça va pas coûter?
Oui, bien sûr.
Derrière.
En tout cas, je crois que ce sont des médicaments qui fonctionnent. On a tous vu autour de nous, si ça fonctionne un peu comme l'Ozempic, on a vu, tous vu des gens qu'on reconnaît pas quand on les recroise plusieurs mois après les avoir quittés, parce qu'entre-temps, ils se sont shootés à l'Ozempic. Donc, pourquoi pas utiliser ces médicaments? Après, quand même, les gens pourraient... Enfin, moi, tout rembourser comme ça tout le temps, alors qu'on peut quand même faire un tout petit peu attention soi-même à son propre corps. Bref,
le coût de l'obésité
absolue.
Ouais, le coût de l'obésité ou du surpoids France,
oui,
c'est 12. On l'estime à 12 milliards.
Et tu prends l'exemple de
il y a quand même plus d'obèses aujourd'hui qu'avant. C'est pas seulement une question de génétique.
C'est pour ça que c'était un oui et non. C'est-à-dire que la personne qui se bouffe 12 McDo par semaine, qui mange n'importe quoi, etc., j'ai pas envie de lui rembourser ça. Je prends juste l'exemple de ma maman qui souffre d'une fibromyalgie, d'un lupus. Il y a eu un cancer de la thyroïde, etc. Ce qui fait que les médicaments qu'elle prend la font forcément grossir. Et bah, le poids de son corps sur ses os qui sont déjà extrêmement fragiles avec le lupus. En plus, les médicaments créent de l'ostéoporose, donc elle s'est pété 7 vertèbres, corset, etc. Et donc là, le poids a un réel impact sur son quotidien et sur son corps. C'est pas uniquement physique. Donc voilà, oui, par exemple, dans ces cas-là, où les personnes qui ont voilà tous ces traitements qui vous font énormément grossir, ça peut avoir effectivement une bonne utilité, oui, et avoir une qualité.
Vous trouvez pas quand même bizarre quand même que les mêmes, parce que Madame Rist, hein, elle dit que ça va coûter une centaine de millions d'euros, les mêmes qui nous expliquent matin, midi et soir, il y a plus d'argent dans les caisses.
C'est pour ça que je dis oui et non.
Il y a plus d'argent dans les caisses, on peut pas baisser le carburant, on peut pas faire ci. Et puis là, tout d'un coup, il y a deux médicaments qu'on rembourse intégralement. Ça va coûter une centaine de millions d'euros. Alors elle est même pas capable précisément de chiffrer. Elle dit quand même 1 million de personnes concernées. Enfin, c'est des messages contradictoires.
Et c'est pour ça que je dis complètement oui et non.
Donc là, les Français se disent ah ben non, mais finalement il y a de l'argent.
Parce que là, combien ça a coûté à ma mère?
Bah, non, parce que quand même, tout le monde
change.
Le
déficit de la sécu dans
l'obésité, ça coûte très cher en pathologie. 10 milliards.
Oui, mais ce qui fait retarder la
diabète.
10 milliards, 100 millions, voilà, c'est un bon
argument. Non, mais pardon. Je sais. Pardon. Là, c'est du business.
Voilà, faut pas que ça devienne
c'est le business, c'est médicaments anti-obésité. On sait que l'obésité, certes, ça peut être génétique, mais c'est la façon dont on mange.
Bah, donc, aujourd'hui, c'est.
Oui, mais du coup, dans ta logique, on sait que quelqu'un du cancer.
Est-ce qu'il faut pas travailler plus sur la prévention, sur la façon dont on nourrit nos enfants?
Les gens mangent trop, la plupart des gens mangent beaucoup trop.
Mais ça coûterait moins cher, à mon avis, que de rembourser.
Oui, mais dans ta logique, du coup, tu rembourses plus les soins des gens qui ont un cancer.
Allez, un petit dernier aux autres. T'avais dit que tu t'en fichais, Joël.
Oui, sinon, je m'en fiche.
D'accord,
oui,
un petit dernier.
On a besoin.
Dur Alex, cède l'ex, la loi est dure, mais c'est la loi. La verrie mythique demande une nouvelle fois son placement en redressement judiciaire.
Encore. Ça fait beaucoup, là, non?
On s'en fout, on s'en fout pas, Laura.
Je m'en fous.
Et Charles?
On ne s'en fout pas.
Ah.
Mais Joël,
et Joël.
Non, on s'en fout pas.
Une nouvelle victoire du réel face au fantasme, moins d'un an après sa reprise en coopérative par les salariés, la célèbre verrerie Duralex fait face à une trésorerie très tendue et se dirige vers un redressement judiciaire, Joël.
Bah, c'est pas l'émotionnel qui fait la rentabilité. Il faut savoir que beaucoup de Français ont cotisé, entre guillemets, enfin, en tout cas, ont donné de l'argent pour que Duralex survive. Ce que je comprends, parce que moi, j'en ai encore à la maison, hein, des verres Duralex.
Et t'as quel âge?
J'en ai racheté, en fait. J'en ai racheté il y a quelques années. Ça tient très bien. Parce que j'avais cette nostalgie de la cantine.
Bah oui.
Voilà. Parce qu'on en a tous, exactement, ouais. Sous le verre. Donc j'avais cette nostalgie, j'en ai racheté. Et donc moi, je pense que Duralex s'est maintenu grâce à l'émotion, mais c'est pas ce qui fait la rentabilité, les charges des entreprises, les impôts, les taxes, machin, l'innovation, tout ça, ça a un coût et ça peut pas se payer à coût d'émotion. Mmh. Voilà, c'est dommage, mais c'est la vérité.
En fait, l'usine ne tourne pas assez, elle ne produit pas assez, il y a pas assez de volume de clientèle aujourd'hui. Ah. C'est ça le problème. Quoi.
Ce qui est très curieux, c'est que Olivier Faure, Lucie Castet, Marine Tondelier, des députés insoumis, s'étaient rendus pourtant chez Duralex. Donc c'est ça que je comprends pas, d'abord. Et ensuite, c'était une coopérative. Oui. Donc c'était les salariés qui géraient ensemble. C'est quand même le meilleur modèle possible pour faire fonctionner une entreprise. Je comprends pas pourquoi ça n'a pas marché. C'est curieux, ça ne marche pas, ces solutions collectivistes ou toutes les décisions sont prises à 200 personnes.
Il faut du volume de clients, et là, il n'y en avait pas.
Oui, mais donc, il faut des idées, il faut innover. Donc, pardon, il faut un patron, il faut des créatifs.
Dans un instant, on va regarder une décision de justice. Il y a un an, le meurtrier d'Alban Gervaise est désormais autorisé à rentrer chez lui. On en parle avec vous au 32-16.
RMC, 9h midi, les Grandes Gueules.